Scene one, Apple, take two.
Cannes, c'est le cinéma et vive le cinéma.
Mais c'est miraculeux en fait que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non?
Merci à Cannes, parce que Cannes, c'est très très important pour le futur du cinéma.
Plus je grandis, plus je réalise qu'il est difficile d'être compris.
Pour moi, l'esprit le plus important, c'est le désir des jeunes gens de protéger la liberté d'être soi-même.
Vive le cinéma!
Dernier épisode de la Grande Table spéciale Cannes. À l'heure où les appels ici se multiplient à ne pas spoiler, c'est-à-dire à ne pas révéler la fin des films, je vous donne tout de suite la fin d'une autre. Troisième et dernière table ronde des critiques après 13h15. Nos critiques reviendront sur le dernier Tarantino, le nouveau Kantemir Balakov et quelques films à venir ici à Cannes et bientôt dans vos salles. Mais d'abord, rencontre avec un cinéaste qui voit double, le duo belge Les Frères d'Ardenne, de retour en compétition avec le jeune Ahmed, portrait d'un jeune musulman radical. Leur film sort en salle en France aujourd'hui, en même temps que celui de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, dont on vous parlait lundi en compagnie du réalisateur et de son actrice mythique Anouk Aimée. Palme d'or en 99 pour Rosetta et en 2005 pour L'Enfant, Luc et Jean-Pierre Dardenne font ici le portrait sous forme de boîte noire d'un ado de 13 ans qui bascule dans le fondamentalisme religieux au grand dam de ses proches, de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses profs et de ses éducateurs, quand les rêves de pureté rejoignent la quête d'identité.
Tiens, essayez de faire celui-là. Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire celui-là.
A moins B fois A plus B égale A carré. Ah, c'est mon frère, j'y vais.
Non, attends. Donc, la fin de la formule, A carré.
Moins B carré.
Moins B carré. Ok. Ça va, tu peux y aller. Alors, Anis. Qu'est-ce que ça fait de division ici ? Ahmed ? Ahmed ! Ahmed ! Ahmed,
tu peux dire au revoir. Hein.
Tu veux toujours pas me serrer la main?
Au revoir.
Pourquoi tu vas là-bas? C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main.
Je suis plus un enfant.
Et alors?
Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme.
Et tous tes copains dans la classe qui me serrent la main, c'est pas des vrais musulmans?
Non.
Un cinéaste bicéphale, voilà comment vous vous présentez parfois, un duo de cinéastes. Bonjour Luc Dardenne.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Pierre Dardenne.
Bonjour.
C'est vrai que c'est pas évident de vous désolidariser, même le temps d'une salutation, d'un bonjour. 30 ans que vous travaillez ensemble tous les deux, que vous écrivez ensemble, que vous tournez ensemble, que vous produisez ensemble. Depuis 87 et le court-métrage Il court le monde. Comment expliquez-vous cette complicité? Est-ce que c'est des regards plutôt complémentaires ou similaires, diriez-vous? Qui commence? Luc?
Je dirais d'abord que ça fait 45 ans que nous travaillons ensemble. Il y a, je pense, des choses similaires, profondes, et puis des choses complémentaires, qui sont peut-être moins profondes. Il y a une profonde fraternité, c'est le cas de le dire ici, qui vient de notre enfance et qui vient de notre rencontre avec Armand Gatti. Jean-Pierre d'abord qui travaille pour lui, moi je l'ai rejoint un peu après. Et on est ses, si je puis dire, d'une manière très brève, on est ses assistants, voilà. Ce qui veut dire on fait un peu de tout, quoi.
Jean-Pierre ?
Oui, c'est la même histoire. Non, mais c'est vrai.
Et donc c'est le même point de vue sur la même histoire.
Oui, exactement. Sauf que je suis celui qui est d'abord, comme dit Luc, a travaillé avec Gatti, qui était rejoint après, et j'étais rejoint après par mon frère Luc. Voilà.
C'est en stéréo, en fait, cet entretien.
Léger différé.
À part la dernière lettre des Dupont, on a l'impression parfois d'être un peu les frères les Dupont.
Jean-Pierre Dardenne, le jeune Ahmed, vous l'avez conçu ensemble, du coup, ou l'un de vous a eu l'idée et a dû convaincre l'autre du bien fondé de cette histoire et de ce projet?
Non, on n'a pas dû. On parle beaucoup, en fait. On fait pas beaucoup de films, on en fait un film tous les 3 ans, mais on parle beaucoup. Et voyant tous ces massacres, Toulouse, Charlie, le Bataclan, Bruxelles, on s'est dit que nous qui disions parfois qu'on faisait des films qui regardaient le monde, on s'est dit peut-être qu'il faudrait quand même essayer de se confronter à cette affaire-là qui... comment en parler, qu'est-ce que peut faire le cinéma, quel film on peut faire à partir avec ça, et comment on peut proposer un éclairage qui ne soit pas une copie du réel et qui soit en même temps aller à la hauteur de la douleur que ça a provoqué.
C'est ballot parce que c'est la question que j'allais vous poser. Donc j'imagine qu'entre-temps, vous avez trouvé des réponses. Le fondamentalisme, l'endoctrinement des jeunes musulmans ou non. On parle beaucoup de ça, de la radicalisation et de son pendant, la déradicalisation depuis les attentats de 2015 en France, ceux de mars 2016 à Bruxelles. 2016 qui était d'ailleurs l'année où votre dernier film, La fille inconnue, était sorti. Pas plus que les experts appelés à se prononcer sur cette question, les psychologues, les islamologues, les politologues, le cinéma n'a de solution évidente, de solution toute faite à ces questions, mais alors que peut-il mettre en lumière, Luc Dardenne ?
Mais la question, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en scène un personnage, une espèce de préadolescent, comme on dit, qui est complètement fermé, inaccessible aux autres personnages, et je dirais même à nous-mêmes, les auteurs. Et ça, on s'en est rendu compte en écrivant le scénario. Et le tournage n'a pas arrangé la chose. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on est vraiment fanatisé, c'est-à-dire on est fermé, et comme disait Camus, c'est un individu qu'on ne peut plus persuader et qui fait peur. Et c'est ça dont on s'est rendu compte, que c'est une énigme profonde. Et on s'est toujours posé la question, mais comment on va faire si on montre des personnages secondaires par une histoire d'amour, par l'éducation, par l'amour maternel, essaye de le faire changer, il n'y arrive pas. Comment faire ? Puisque notre désir était de faire sortir ce jeune garçon du fanatisme, d'ouvrir une porte, de déverrouiller.
Mais vous n'aviez pas la clé.
Exact.
Pas plus que les autres.
Pas plus. Et on a trouvé ce qu'on a trouvé, je ne vais pas raconter le film. Voilà.
Mais c'est un aveu d'impuissance, la vôtre, mais la nôtre aussi alors.
Oui, enfin, on a essayé que la vie regagne petit à petit la fascination de la mort, de la fascination mortifère que cet imam a foutu dans la tête du gamin. Et c'est, enfin, il n'y a pas que le cinéma, mais enfin le cinéma en tout cas a cette possibilité-là, c'est de filmer la vie. Malgré ceux qui voudraient qu'elle ne soit pas filmée, il se fait qu'elle ait filmé la vie. Quand on met le personnage dans un paysage avec les feuilles qui bougent, quand on entend les sons d'une voiture qui passe, les vaches qui meuglent, la manière dont on le filme quand il se déplace, la manière dont il le jeune Ahmed, comment y dire avec ce corps qui est en train de changer, cet enfant qui devient un adolescent, il y a la vie qui est là, qui se manifeste tout le temps. Et nous, on s'est dit, il faut, dans notre mise en scène, dans notre travail avec les comédiens, c'est ça qu'il faut essayer tout le temps de faire, c'est que il faut prendre le point de vue opposé de l'imam, et nous, il faut être à l'affût de la vie.
Au-delà de cette question de la radicalisation, c'est aussi un film sur l'adolescence que vous avez réalisé, sur la perte de repères qu'on peut ressentir à ces âges-là, sur la quête de sens à donner à sa vie. Il est travaillé par les mêmes questions que beaucoup d'ados de son âge. Il trouve peut-être les mauvaises réponses ou la mauvaise direction, mais lui trouve dans ces mots de l'imam, dans cette figure de son cousin qui l'inspire, une raison de vivre aussi. Luc Dardenne.
Oui, c'est une période d'immaturité, l'adolescence. Et pour compléter ce qui est immature, on cherche des modèles hors de la famille, puisque précisément on en sort, on quitte sa mère, son père, parfois violemment. Et ici, il rencontre cet imam qui va lui donner qui va être son modèle, qui va lui rappeler que le grand modèle, c'est le cousin mort. Donc notre personnage est un zombie. Il vit avec un mort dans la tête, le cousin mort en martyr en Syrie. Et c'est vrai que il aurait pu rencontrer un autre idéal, un idéal d'amour, pour le dire simplement. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, on s'engage absolument dans les choses absolues. Et là, il s'engage absolument dans une chose absolue qui est un idéal de haine, de pureté, qui dit toi tu es pur et les autres sont impurs.
Et sur l'impuissance des adultes? Les parents, les profs, les éducateurs, l'avocat aussi du jeune Ahmed, tous échouent. Sur quoi butent-ils ? Oui.
C'est que il me semble que le fanatique se définit par ceci, c'est que il fait résolument, obstinément et continuellement le bien, quoi qu'il fasse. Il en est intimement persuadé. Il est coupé du monde, il est enfermé, il est complètement possédé par cette volonté de pureté. Et il y a que ça qui compte. Et il est donc prêt à éliminer sans aucun problème tout ce qui obstrue le chemin de la pureté. Et à se protéger, lui, en même temps, de tout ce qui risque de le contaminer. Et c'est vrai que par rapport à ça, les adultes, et nous, on a du mal avec un personnage comme ça, qu'on ne peut pas, toucher, sensibiliser à travers des rencontres, même à son propre insu. C'est difficile, puisqu'il est, il est persuadé, lui, qu'il fait le bien de toutes les manières. Donc on a trouvé, bon voilà, c'est le film qui a trouvé ça. Mais en même temps, je ne suis pas persuadé que tout ce qui se passe avant ce dernier quart d'heure ne soit pas utile. Je pense que la bienveillance, sa mère aussi, qu'il affronte quand même, les rapports un peu plus... Allez, plus dur, d'amour aussi, mais avec sa mère, l'attention de son éducateur, je ne suis pas sûr que ça n'est pas verbalisé, mais que ça ne le travaille pas aussi pour qu'il puisse, à un moment donné, se réconcilier avec le monde, se réconcilier avec la vie.
Et son premier baiser aussi.
Oui.
Histoire d'amour aussi.
Voilà.
Qui incarne cette pulsion de vie dans cette croyance ou face à cette croyance mortifère? Ses lèvres qui se frôle avec cette jeune femme qu'il va parcourir dans son parcours de rééducation ou de déradicalisation, comme on dirait aujourd'hui. Parce qu'il a tenté de tuer l'une de ses professeurs et il va du coup être enfermé dans un centre éducatif. C'est pas un film psychologique, puisque vous n'avez pas trouvé la porte d'entrée, vous non plus, Luc et Jean-Pierre Dardenne, pas plus que nous, tous, collectivement. Jamais vous ne cherchez du coup à rentrer directement dans sa tête, à comprendre exactement pourquoi il est attiré par tout ça. Et du coup, c'est par les signes extérieurs, par la parole, par les actes que vous tentez de capter les changements d'humeur, les oscillations de son comportement à lui. Comment vous avez travaillé avec ce jeune comédien, jeune en comédie aussi, Idir Ben Ali?
Ben, on a travaillé. Bon, Truffaut dit on ne dirige pas un enfant, il a en grande partie raison. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il devait apprendre aussi. Et on travaille toujours, nous, 4-5 semaines de répétition avant le tournage, avec une caméra. Et avec Ahmed, tous les jours, on a fait à peu près toutes les... Et puis avec les autres acteurs, quand il y avait des scènes où ils rencontraient d'autres personnages, on a fait toutes les scènes. Et on a filmé, et voilà, on lui disait, attends un peu, change ceci, change le rythme, un moment de silence. Et puis on regardait beaucoup comment il plaçait ses mains, comment il courait, comment il marchait, comment il se retourne, comment il met ses lunettes, il les enlève. Parce que tout ça, on lui disait pas évidemment, mais on a gardé beaucoup de choses qu'il faisait dans la vie. Voilà. Et on s'est dit que ces moments-là, un peu de maladresse, parce qu'il est un peu pâteau, il est encore un peu potelé aussi, de visage, les mains, il est un peu maladroit, on s'est dit tous ces moments-là échappent à l'idéologie absolutiste, mortifère de son imam. Il reste quand même l'enfant de sa mère, si je puis dire, qui peut grandir aussi vers la vie. Et pas vers la mort. Et voilà. Et ça, on a été attentif à ça et à placer notre caméra de manière à... Voilà, aller saisir, aller capter.
Tous ces films, leurs secrets, leur beauté, et dont le cinéma a tant besoin.
France Culture.
Ça fait 60 ans déjà que nous avons rendez-vous chaque année au mois de mai avec le cinéma du monde.
La Grande Table.
Action.
Olivia Gesbert.
C'est votre 9e long métrage. Est-ce que ce film est pour vous le plus pessimiste que vous ayez réalisé dans la difficulté à sauver aussi ce jeune homme? Et est-ce que vous en êtes ressorti plus sombre que vous n'y êtes entré, vous deux, dans cette histoire?
Plus sombre. C'était difficile pour la fin. Voilà, c'est vrai. On a beaucoup hésité. On avait plusieurs possibilités, et puis finalement, c'est celle qui est dans le film que nous n'avons filmé finalement que celle-là. Sans vouloir en dire plus sur ce moment du film, sur la fin du film, il nous semble que c'est difficile, mais ce n'est pas pessimiste.
Vous étiez quels adolescents, vous, tous les deux, il y a quelque temps?
Je crois que j'étais assez révolté, oui. J'ai fait pas mal de petites bêtises, je dirais. Oui, j'étais, je sais pas pourquoi, j'ai jamais bien compris, mais en guerre, contre moi-même, contre mes parents, contre beaucoup de choses.
Et Jean-Pierre, c'était le sage des deux?
Non, je...
Ouais. Luc vous a entraîné dans sa révolte?
J'étais l'aîné. L'aîné, c'est une position, je ne dirais pas, voilà, c'est une position, c'est la première opposition, c'est vous qui la faites, mais je n'ai jamais manifesté mon opposition de manière aussi inconséquente que mon frère.
Non, je vous plaisante. Plus réfléchi.
Je n'ai jamais manifesté avec la franchise avec laquelle il l'a manifesté. Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah non, mais ça, c'est bénin, c'est...
Ça n'a pas l'air.
C'est des choses dont on ne parle pas. Non, non, mais non, voilà, non. C'est des choses plus violentes, effectivement. Voilà, et des comportements qui transgressaient les règles de la famille. La famille, notre père particulièrement, essayait de nous inculquer. C'était un peu contre le dressage, si vous voulez, d'une éducation très sévère et très autoritaire.
Où la parole avait peu de place, l'échange.
La parole avait, oui, c'est ça. C'était, il fallait obéir.
Mais le cinéma est un lieu d'échange, voilà, non? Entre le cinéma, film et le spectateur aussi. C'est ce dialogue-là que vous créez.
Oui.
Oui, c'est, enfin, c'est ce que. Mais c'est, on aurait pu devenir, je vais dire, chanteur ou.
Ah ça.
Non,
oui.
Non, mais avoir cet échange vivant, là, c'est quand même un art mécanique.
Non, il fallait pas chanter, c'est la catastrophe.
J'allais vous le demander.
Non,
non. Non,
non mais non. Pourquoi moi non plus, le cinéma, d'ailleurs. Ça, c'est... bon, finalement, il y a la réponse un peu facile de dire, le cinéma, il y a du son et de l'image, faut être deux. Bon, mais c'est un peu, c'est pas ça vraiment. Même si on a commencé comme ça.
Sur ce dialogue que vous ouvrez avec ce film, Le Jeu d'Ahmed, et avec le public des salles, dans le calme apparent de nos sociétés en Belgique, en France, vous ressentez quand même encore un intérêt pour cette question sensible, justement parce que toutes les réponses, on ne les a pas encore aujourd'hui, il reste un besoin de comprendre. Ce film sort au bon moment.
Ah, ça, je ne sais pas s'il sort au bon moment, mais il y a toujours un besoin de comprendre. Et il faut continuer à parler, il faut parler et ne pas... Allez,
pas avoir peur.
Ne pas avoir peur. Il faut pas désigner de bouc émissaire. Il faut pas, mais il faut parler. Il faut, oui. Et c'est ça qui manque. Et il y a tous ces censeurs et tous ces machins là qui sont là à gauche, à droite pour vous. La parole n'arrive plus vraiment à circuler. On peut dire. Hein. C'est tout de suite.
Politiquement correct. Ouais. Ça l'emporte beaucoup, un peu trop, je trouve, par rapport à ces questions.
Je pense que ça bouge, ça change.
C'est bien. Oui, ça discute.
Il y a pas si longtemps, on n'entendait jamais toutes ces femmes, ces hommes. Je sais pas si on dit de culture musulmane. Enfin, ils sont-ils encore croyants ou pas croyants, mais peu importe. Ce sont leurs traditions,
leur héritage,
et qui parlent librement, qui parlent librement. Ça, c'est un grand changement, je trouve. On les entendait, on leur donnait, ils avaient jamais accès à la parole publique ou très difficilement.
Et les femmes, surtout. Même s'il y a aussi des écrivains algériens, par exemple, comme Boualem Sansal. Ce sont ces esprits et ces corps qui ont été les plus dominés, les plus emprisonnés, empiégés, qui vont empêcher que ça continue et qui vont faire réfléchir.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, un mot de Cannes, où vous êtes actuellement avec nous. Depuis La Promesse, en 1996, tous vos films ont été présentés en compétition ici. Dans Marianne, ce mois-ci, vous avez dit « Nous sommes les enfants de deux pays, la Belgique et Cannes. Liège et sa périphérie, Cannes et son tapis rouge. » Là, on est quand même dans deux univers radicalement différents. Comment ils arrivent, ces deux univers, à cohabiter en vous? Est-ce qu'ils sont tous les deux finalement aussi inspirants parce qu'ils représentent?
Oui, la passion du cinéma, vous parlez de Cannes et de Seraing. Non, non. Mais, je ne sais pas ce que Jean-Pierre répondra, mais en tous les cas, pour moi, quand je suis ici, je ne dis pas que je suis encore à Seraing, mais je parle encore quand même de cette ville d'où nous venons. Je parle quand même, nos personnages, c'est là que nous les inventons, c'est là qu'ils habitent. C'est dans cet espace-là, dans ce territoire, qu'on les fait vivre et bouger. Donc moi, quand je suis à Cannes, je suis encore dans le film qu'on a tourné, donc je suis aussi encore à Seraing, si je puis dire. Je divise pas les choses, et le Cannes qu'on appelle Payette, et qui est aussi le Cannes un peu mythique, qui est très bien, nous sommes aussi dedans, mais ça ne m'empêche pas de rester concentré sur le film.
Jean-Pierre Dardenne.
Et mais moi, je pense que Seraing, c'est mieux avec Cannes, et Cannes, c'est mieux avec Seraing. Voilà, je trouve que c'est bien. Je trouve que Seraing est mieux avec Cannes et que Cannes est mieux avec Seraing. Quand ils sont ensemble. Je suis contre la pureté, en fait. Voyez-vous.
qui n'est ni à Seraing ni à Cannes.
Voilà, mais qui est là entre les deux, ça circule.
Merci beaucoup à tous les
Merci.
Deux.
Merci.
Le film Le Jeune Ahmed sort donc en salle aujourd'hui, réalisé par les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre Dardenne. Merci.
Merci, merci.
Et finalement, ça, notre travail pendant 12 jours, c'est aimer les films et les défendre.
France Culture.
On m'avait tellement rebattu les oreilles que c'était la Palme d'Or.
La Grande Table.
Que, en fait, j'aurais été ravi de ne pas lui donner.
Olivia Jesbert.
13h16 sur France Culture. Tout de suite, notre table ronde des critiques avec aujourd'hui Michel Simon, France Culture Positive, bonjour.
Bonjour.
Henri Leblanc de la Grande Table, bonjour.
Bonjour.
Et le critique de cinéma chinois, Muyan Wang, du journal en ligne chinois The Paper, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints pour cette Grande Table des critiques. On commence avec le nouveau Quentin Tarantino, qui a provoqué hier l'hystérie sur la croisette et un service de sécurité assez impressionnant. Il faut dire que le réalisateur de Kill Bill, révélé ici à Cannes avec Reservoir Dogs et Palme d'Or avec Pulp Fiction il y a 25 ans, est venu accompagné de deux stars mondiales à l'affiche de son Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Bande-annonce.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That's your son?
No, that's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut? Crown you Nazi bastards!
An actor?
No, I'm a stuntman.
Girl, look at me.
So you still with Rick, huh? Still here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en salle le 14 août. Deux pour, un contre autour de cette table. Et on commence avec vous, Michel Simon. Trop de paillettes, pas assez de cinéma?
Écoutez, j'ai une grande admiration pour Quentin Tarantino depuis Reservoir Dogs. J'ai défendu pratiquement, peut-être pas tous ses films, mais la quasi-totalité de ses films. Mais je suis pas pour la politique des auteurs, c'est-à-dire je suis pour la théorie des auteurs. C'est-à-dire pour moi, les auteurs, c'est effectivement les metteurs en scène. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont infaillibles. Et je pense que Tarantino, cette fois-ci, n'a pas vraiment réussi. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant de ce film, c'est la volonté de renouvellement, comme si Tarantino pensait que sa veine second degré, dérision, jouer avec les gens, les déconstruisant, etc., était un peu à bout de souffle, parce que le précédent film n'était pas un de ses meilleurs. Il a décidé d'aborder un autre type de cinéma, mais il reste beaucoup dans ce film de son ancienne méthode, et on ne retrouve pas l'extraordinaire dialoguiste qu'est Tarantino, c'est-à-dire la mitrailleuse des phrases, l'invention verbale. On le voit pas non plus le très grand directeur d'acteurs, c'est-à-dire que je sais pas que Brad Pitt n'est pas bon, c'est pas du tout que Leonardo DiCaprio, ils assurent leur travail, mais surtout il y a tellement eu de films sur Hollywood magnifiques qui sont l'histoire du cinéma, de voir ce film qui hésite constamment entre d'une part le pastiche, puisqu'il y a un western à l'intérieur du film, où là c'est le vieux Tarantino qui réapparaît, et d'autre part une sorte de chronique hollywoodienne, qui se termine en plus par l'épisode de la mort de Sharon Stone, qui d'ailleurs Sharon Tate, pardon, et qui ne meurt pas. Moi, je trouve ça très... montrer la bande à Manson comme des hippies, comme une sorte de film à la fois rigolard, monstrueux et rigolard. Je pense à Polanski, à ce qu'il va pouvoir ressentir devant l'évocation de sa femme meurtrie, tuée. J'ai été gêné par le film. Je pense pas du tout que ce soit une œuvre majeure de Tarantino.
Applaudissements polis, d'ailleurs, à la fin de la projection officielle. Et pourtant, vous, Muyan Wang, vous êtes laissé emporter par ce grand film américain.
Oui, grand film, je sais pas, mais je l'ai plutôt bien aimé.
J'aurais dû dire long film parce que ça dure 2h40. Peut-être c'était un grand qui s'étendait.
Facile, ouais. Voilà. Et surtout la première partie, c'est un peu trop long. On se perd un petit peu pour savoir où en est le film, où en est nous avec le film. Mais en fin de compte, je trouve le film est plutôt bien et qui est même touchant vers la fin pour moi parce que j'en suis pas sûr si son ambition sera un film sur le Hollywood, je ne sais pas, mais je le prends un petit peu comme un kaléidoscope personnel et nostalgique de ce qu'il a vivé dans cette année 69. c'est parfois je me demande aussi est-ce qu'il se fonce trop dans son plaisir personnel, parfois coupable des films dans les films, des petits plaisirs de tourner des westerns, de tourner d'autres scènes et finalement ça m'a touché parce que je sentais que c'est en fonçant dans ces petites histoires et en construisant ces petites histoires Tarantino voulait dresser un portrait de cette année, de cette époque, et en racontant l'histoire, la grande histoire, est-ce que ça écrire avec le cinéma.
Alors, on ne rencontrera pas Tarantino, mais vous êtes ressorti quand même, Henri Leblanc, avec le plaisir de voir deux grands acteurs sur grand écran et qui ne sont pas grands pour rien, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, et une impressionnante direction d'acteur. Vous en retenez surtout ça.
Je pense que, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Michel Simon sur, en tout cas, le côté sur l'idée que ce film ne montrerait pas encore le génie de metteur en scène de Quentin Tarantino. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Brad Pitt dans un aussi bon rôle, tout en nuances, où son visage exprime une palette de sentiments qu'on n'avait peut-être pas vu depuis Jesse James. Et il offre à Leonardo DiCaprio une longue scène de mise en abîme, où il joue le rôle d'un cow-boy, d'un méchant de western, où on voit à quel point Leonardo DiCaprio est un des plus grands acteurs d'aujourd'hui. Après, je crois qu'effectivement, le film souffre peut-être de l'effet Cannes, c'est-à-dire que peut-être Tarantino s'est trop empressé à le monter. Le film ressemble à une sorte de grand corps déséquilibré avec une jambe boursouflée qui serait la première partie du film qui dure à peu près 2 heures et une sorte de jambe de bois de 40 minutes où vraiment là on voit le génie de Tarantino tout et on a plaisir à le retrouver. Peut-être il aurait dû travailler un peu plus.
Le nouveau Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, sortira donc en salle le 14 août. On va vous parler maintenant de deux films russes qui ne sont pas présentés en sélection officielle ici à Cannes, qui ne sont pas en compétition, avec regret pour notre critique Michel Simon. On commence avec La Grande Fille de Kantemir Balakov dans la section Un Certain Regard en salle le 21 août.
Товарищи, а пойдемте танцевать?
Хорошее дело! Танцоры мои, пройдете?
Можно вас?
Что я такая хмурая?
Знаю.
Muyano Wang, avant que Michel Simon en dise tout le bien qu'il en pense, vous avez vu ce film aussi?
Celui de Kantemir Balakov, oui, je l'ai vu et je l'ai bien aimé. Je trouve, tout en étant trouvé qu'il est un peu trop long, et la deuxième heure, il y a des petits problèmes de lenteur, mais le film est très beau, j'ai beaucoup aimé, et c'était très touchant. Je trouve le cinéaste a eu une démarche un peu différente de son premier film, et qui est plus ouvert cette fois, et qui rend le film très réussi.
Tess Nota, qui avait été présenté aussi ici à Cannes dans la section Un Certain Regard, 1945, Michel Simon, la Deuxième Guerre mondiale a détruit Leningrad. Deux jeunes femmes, Iya et Masha, essaient de donner un peu de sens à leur vie dans ce pays, dans cette ville en ruine.
Oui, alors, il y a 2 ans, nous avions vu Tess Nota. Tout le monde disait, c'est un immense film, il a fait le tour du monde, c'était une révélation majeure, son premier film, et on pensait qu'il aurait dû être en compétition. Alors, on voit maintenant son deuxième film, qui est tout aussi stupéfiant, et on se demande pourquoi il n'est pas en compétition, alors qu'on a vu tout de même des films assez médiocres. Je dis, la compétition est tout de même d'un très bon niveau, mais il y a eu des films. Donc, on ne s'explique pas, surtout que Thierry Frémaux, présentant les films russes, dit que c'est une renaissance du cinéma russe, que c'est vraiment le cinéma exceptionnel. Alors, on ne voit pas pourquoi ce film, évidemment, il n'est pas glamour, il n'y a pas de montée des marches, c'est un film éprouvant, c'est un film extrêmement dur, qui est dans la grande tradition de la littérature de ce russe, depuis les souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski, les textes de Tchekhov sur le bagne. Donc, c'est un film sur deux femmes qui ont survécu aux horreurs de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui se retrouvent dans une sorte d'amitié complexe, avec dans un paysage dévasté, avec un sens du mélodrame, je dirais, mais un mélodrame totalement maîtrisé, d'un pathétique absolument bouleversant, qui dit vraiment, on est devant un très très grand cinéaste. Et ce film m'a extrêmement impressionné.
Une panthère de Crimée, un autre film russe qui vous a beaucoup séduit ici à Cannes, voilà, qui n'est pas non plus en sélection.
Là, c'est un autre film en terre de Crimée, donc de Nariman Aliyev. C'est un premier film qui fait penser à un autre très grand film qui avait eu le Lion d'Or à Venise, le premier film de Zviagintsev, Le Retour, qui est l'histoire de gens qui veulent ramener le corps de leur frère et du fils, c'est-à-dire le père et le fils amènent le fils qui est mort, qui a été tué dans les combats, et donc en voiture ils transportent ce cadavre jusqu'à la Crimée. Et c'est un affrontement avec évidemment les gardes frontières, c'est un affrontement entre le père et le fils. C'est un film très rugueux, très dur, et également à mon avis de très très grand talent.
Muyan Wang, il nous reste 2 minutes. Gros coup de cœur pour le nouveau film de Bong Joon-ho, présenté hier dans la sélection officielle à Cannes, dont on vous reparlera demain avec le cinéaste sud-coréen en première partie de la Grande Table, puisqu'il sera notre invité. Une tragicomédie bouleversante où on rit aussi beaucoup, on rit noir.
Oui, on rit, on est touché, on a failli pleurer vers la fin. Je pense que c'est un film qui suscite toutes nos émotions pendant la projection à ce jour-ci hier. On est tous un peu fatigués, mais on a senti dans la salle de l'émotion des gens. Oui, c'est une tragicomédie, mais à la fois ça exprime, comme l'année dernière, le très beau film de Burning de Lee Chang-dong, ça exprime aussi la colère du cinéaste de cette décalage de société en Corée, mais tout est très très bien caché sous une histoire très très bien construite, très fluide, et de ce point-là, je trouve que le film est très très beau, très réussi.
Et le film sort en salle dans une dizaine de jours, donc nos auditeurs pourront très très bientôt le voir. Ça évoque aussi un peu la palme d'or de l'an passé, celle du japonais Koreeda, parce que c'est une autre affaire de famille. Mais cette fois, donc, en Corée du Sud. Henri Leblanc, et avec vous deux, 3 mots de ce qui va suivre dans ce festival. Aujourd'hui, Xavier Dolan et Arnaud Desplechin. Demain, jeudi, l'Italien dont on vous parlait hier, très attendu.
Marco Bellocchio.
Surtout par vous, Michel Simon, un mot.
Oui, c'est évident. Et aussi Elie Souleymane, ce cinéaste palestinien, avec son humour froid. On attend évidemment son film.
Ça, ce sera pour vendredi.
J'attends évidemment Bellocchio, parce que je pense que c'est le plus grand cinéaste italien vivant. C'est un metteur en scène exceptionnel. Et puis, évidemment, Arnaud Desplechin, les meilleurs cinéastes français.
Et Abdelatif Kechiche, Henri.
Oui, on attend beaucoup le deuxième volet de Mektoum My Love. On va retrouver avec grand plaisir les longues scènes solaires et a priori, on nous annonce une très 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 longue scène de boîte de nuit pour ce film qui sera de 3h20. Donc on a hâte de le découvrir sur les écrans du Palais.
Très bon festival, messieurs, pour les quelques jours qui vous restent jusqu'à samedi. Je vous retrouve, quant à moi, demain en direct de nos studios à la Maison de la Radio à Paris. Merci à vous Michel Simon, merci Muyan Wang et merci beaucoup Henri Leblanc qui a préparé et programmé toutes ces trois grandes tables ici en direct de Cannes. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Radio France, à Sandrine Malon, à Hélène Langlois, à Gilles Gallinaro et à Pascal Brest, notre chargée de production, qui nous ont aidés à préparer et à réaliser ces émissions, à Milena Elig qui était aux manettes aujourd'hui encore avec Léo Prangère et YouTube Diego Aclopez à Paris. À Mayan Escovic, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez, Mathilde, Ton Fourcade et Antoine Suzarelli, enfin pour leur aide très précieuse à Paris. Très bel après-midi à tous, rendez-vous demain.